Nous prions. Ô notre Père, nous allons maintenant ouvrir ta parole et la partager. Cette parole est ancienne, nous sommes sans doute un peu habitués à elle, pour ne pas dire vaccinés à son sujet. Et c'est la raison pour laquelle toute parole, la tienne en priorité, peut et doit devenir pour nous quelque chose de neuf. Une interpellation, non pas quelconque, mais une interpellation réelle, ciblée pour notre vie à chacun, avec nos problèmes, nos joies, nos espérances ou nos difficultés. Alors oui, que aujourd'hui encore, ta parole soit pour nous un centre de vie, qu'elle nous aide à trouver et retrouver toujours dans la joie et dans l'espérance le sens de notre vie et le sens de notre plénitude. Amen. Alors, je vous propose ce matin de vous lire quelques extraits d'abord. C'est pas très original, les tout premiers versets de la Bible, le chapitre 1, des extraits du chapitre 1 du livre de la Genèse. Lorsque Dieu commença la création des cieux de la terre et de la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, les ténèbres nuit. Il y eut un soir et un matin, et ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, qu'elle sépare les eaux avec les eaux. Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue, avec celles qui sont au-dessus. Dieu appela l'étendue ciel, il y eut un soir et un matin, et ce fut donc le deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont sous le ciel se rassemblent en un seul lieu, que le sec paraisse, et cela fut. Dieu appela le sec terre, l'amas des eaux mer, et Dieu vit que c'était bon. Il dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers qui donnent du fruit. La terre produisait donc la verdure, les espèces d'arbres et de verdure, et Dieu vit que c'était bon, et il y eut ainsi un soir et un matin, c'était le troisième jour. Et puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, le bétail, la terre et tous les reptiles. Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa homme et femme. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, et dominer sur tout ce qui s'y trouve. Deuxième lecture, dont le sens est quand même un peu différent, mais par la suite vous verrez la jonction entre ces deux propositions. Donc, deuxième lecture, c'est quelques versets du chapitre 16 de l'évangile de Matthieu. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Et un peu plus loin, Jésus leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Ou encore, que donnerait un homme en échange de son âme? Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Je vous invite donc à chanter. Alors, oui, ce sera sur le petit cantique bleu. Voilà, cantique bleu, et c'est donc le cantique 404 que nous allons chanter. Merci à Frédéric de nous y accompagner ou entraîner. Ô prends mon âme. Voici les quelques versets sur lesquels vont porter notre méditation maintenant. C'est ultra connu, mais parfois ce qui est connu mérite quand même qu'on continue à y réfléchir dessus. Donc, au chapitre 10 de l'Évangile de Luc, verset 25, un docteur de la loi dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que faut-il faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-ce qu'il est écrit dans la loi ? Qui lis-tu ? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et aime ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Qui est mon prochain ?» La vie est quelque chose qui est toujours magnifique. Bon, sans doute que nous avons quelques misères de temps en temps. Ce n'est pas toujours qu'un long fleuve agréable et facile. Mais quand même, et heureusement, nous y tenons et nous y sommes attachés. La vie, comme notre vie à chacun, est un ensemble. C'est un tout. Alors nous pouvons, cet ensemble, on peut l'analyser, on peut chercher à le comprendre. Mais c'est vrai que, et heureusement, que la vie est autre chose, et autre chose d'autrement plus grand que la réflexion que nous avons sur elle. Dans la vie, il y a un élément fixe, une permanence, c'est Dieu, la transcendance. Dieu, c'est une puissance qui est bonne et qui nous dépasse. Certains pourront dire, peut-être parleront de leur bonne étoile, pourquoi pas. Mais Dieu est ce qui est permanent, et heureusement, alors que nous, légitimement, au contraire, nous évoluons. Humainement et spirituellement, nous évoluons, et c'est normal. Nous ne sommes pas les mêmes à des moments différents de notre vie. Que ce soit humainement parlant, que ce soit spirituellement parlant pour les croyants, on n'est pas pareil à 10 ans, à 40 ans ou à 80 ans. Il y a donc des évolutions légitimes, nécessaires, alors que cela est fonction des événements, des rencontres, des situations, alors que lui, Dieu, est toujours identique à lui-même et heureusement. J'ai pensé donc que nous pouvions reprendre dans l'évangile de Luc ce que nous avons coutume d'appeler le sommaire de la loi. Tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain. Vous me direz, c'est un chemin quand même où on a quand même quelques balises. J'espère quand même que vous avez ces balises. Mais vous savez, les fondamentaux de notre vie, de temps en temps, c'est important d'y revenir. Et puis justement, parce que nous évoluons, ce que nous avons perçu, ce que nous avons cru comprendre à un moment donné est toujours valable, mais peut-être que nous pouvons aussi l'entrevoir et le recevoir dans une perspective beaucoup plus large. Donc, je vous propose trois temps de réflexion. à partir du sommaire de la loi. Le premier temps, pour rappeler ce que plus ou moins vous et moi, on sait tous, et en tout cas ceux qui sont chrétiens depuis un certain temps, que nous savons de longue date. C'est bon de rappeler ces choses-là, parce que peut-être on les a un peu oubliées. Et puis peut-être que, les circonstances aidant, nous les recevons avec un regard un peu différent de celui que nous avions antérieurement. En un deuxième temps, je vous proposerai peut-être de concevoir cela de façon un peu plus actuelle, un peu plus moderne que souvent on ne le fait. Et puis, troisième partie, un peu plus originale, je ne sais pas, essayer de voir sur un plan de la pensée profonde, sur le plan de la pensée théologique, qu'est-ce que ces prescriptions ou ces ordres presque que Jésus nous donne, qu'est-ce que cela veut dire, qu'est-ce que cela induit pour nous. Première partie donc, ce que le sommaire de la loi, l'amour de Dieu et l'amour du prochain, qu'est-ce que nous savons, qu'est-ce qu'on a essayé de nous inculquer, de nous apprendre à ce sujet-là. Donc, Dieu demande à être aimé. Je serais tenté de commencer par poser la question, quel Dieu ? Si je vous ai lu des larges extraits du premier chapitre de la Genèse, c'est parce que, d'ouverture de jeu, la Bible nous offre deux perspectives, selon moi, qui ne sont pas identiques, de Dieu, de la volonté de Dieu et du chemin où Dieu nous attend. Si vous avez un peu en mémoire, je n'ai pas le temps de tout rappeler, si vous avez en mémoire le second récit dit de la création, en fait ce ne sont pas des récits de la création ou sur la création, mais des récits à partir de la création, autrement dit, une présentation de ce qu'est le monde, la vie, si nous sommes croyants Dieu aujourd'hui. Présentation de Dieu, de notre vie, etc. Deuxième chapitre, très largement brossé, au départ, il y a un jardin. Un jardin peut être quelque chose de mirifique, mais un jardin, c'est quand même toujours un lieu clos. Un lieu clos, s'il y a une clôture, c'est quand même pas, c'est pas la grande liberté. On peut être heureux un certain temps dans un jardin, mais enfin, un jardin, c'est quand même un endroit où la liberté est limitée. Et dans ce jardin fermé, il y a un arbre donc qui est défendu, ce que je me permettrai d'appeler un interdit. Cet arbre n'est pas n'importe quel arbre, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Autrement dit, connaître ce qui est bien, ce qui est mal, avoir une ouverture sur la science, sur la morale, avoir une ouverture sur les chemins de la vie, c'est réprimandé dans la mesure où on demande seulement d'être là, d'obéir et de ne pas trop se poser de questions. Et bien entendu, on sait très bien, au point de vue pédagogique avec nos enfants, dès qu'il y a un interdit, forcément il y a la tentation de franchir l'interdit. C'est très tentant, dès qu'il y a un interdit, d'aller contre. Après tout, donc, il est presque normal, pas normal, mais presque normal, que Adam et Ève aient été spécialement attirés par le fruit de l'arbre interdit. Autrement dit, attirés par la connaissance du bien et du mal. Bien. Et alors, dans ce récit, une fois que Adam et Ève se sont en désobéi, appelez ça comme vous voudrez, c'est un mythe créateur. Vous savez, les 11 premiers chapitres de la Genèse, on peut dire, sont des mythes créateurs et non pas des récits historiques. Et donc, dans ce mythe, mais qui est très porteur de sens, et après l'interdit, il y a la désobéissance. Avant la désobéissance, il y a la tentation, bon, symbolisée par le reptile, le serpent. Bon, d'où vient-il ? Si Dieu a tout créé et si Dieu est bon, d'où vient ce serpent, le tentateur ? Autre question. Et le résultat, c'est que le texte nous dit, Dieu une fois qu'Adam et Ève ont mangé du fruit défendu, Dieu leur interdit de rester là. Dieu dit, s'ils restent au jardin, c'est toujours encore un mythe, ils risquent de manger du fruit de l'arbre de vie et de devenir éternels. On a vraiment l'impression, que le monde qu'on nous présente, c'est le monde où nous vivons, où Dieu est un peu assimilé à un chef de service, enfin un patron, qui regarde un petit peu ses seconds, ses associés, et qui fait attention à ce qu'aucun Dieu ne prenne trop de pouvoir et par conséquent ne risque de lui piquer sa place à un moment ou à l'autre. Donc après, l'homme et la femme sont chassés du jardin splendide. Bon, ça c'est une vision, mais je dis, c'est un mythe, à ne pas prendre à la lettre. À l'inverse, chapitre 1 que nous avons lu, autre chose. Parce que on nous dit que Dieu crée tout. Si vous avez fait attention au récit que nous avons lu, le mot important qui revient sans arrêt, on ne dit pas tellement que Dieu a fait. On nous dit Dieu sépare. Il sépare la lumière des ténèbres. Il sépare la terre ferme des choses mouvantes qui n'ont pas de consistance. Dieu sépare, séparer, c'est donner du sens. Bon, savoir qu'il va y avoir du soleil ou de la pluie peut-être pour arroser nos champs et nos fleurs, savoir qu'il y a des choses qui sont distinctes, ça permet d'avoir du sens. Donc Dieu est présenté ici, non pas comme celui qui aurait tout fait à partir de rien, mais bien comme celui qui va donner du sens à toute chose dans la vie. Dans ce récit, deuxièmement, on nous dit que l'homme est fait à l'image de Dieu. Bon, l'image de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu aurait des oreilles, des ongles et un nez ou je ne sais pas quoi. À l'image de Dieu, ça veut dire que la relation, le dialogue est possible et réel entre eux. Malgré l'infinité de distance de Dieu à nous, la relation est quelque chose que Dieu veut et que Dieu instaure. Bon, dans ce récit, vous avez remarqué sans doute que l'homme et la femme sont créés ensemble et égaux, en droit, bien sûr. Et puis vous avez remarqué surtout, à la fin, Dieu non seulement est soucieux de ses prérogatives, sa puissance, mais Dieu veut confier à l'homme la terre. Autrement dit, Dieu renonce à une partie de son pouvoir, il en fait cadeau aux hommes, non pas que les hommes le méritent, non, c'est un cadeau, comme tout cadeau c'est quelque chose de gratuit, qui n'est pas mérité, et en Dieu faisant cadeau de tout cela aux hommes, veut seulement ennoblir chacun d'entre nous, indépendamment de ce que nous valons et de ce que nous méritons. Nous avons là donc deux visions très différentes de Dieu, de ce qu'il veut. Peut-être, vous êtes libre de me suivre sur ce chemin-là, peut-être qu'il y a une petite parenté entre ce Dieu qui renonce à son pouvoir, ou à une partie de son pouvoir, pour le confier aux hommes, et puis, en parallèle, l'une des manifestations d'hier, toutes ces personnes, des jeunes et des moins jeunes, qui manifestent pour la sauvegarde de la terre ou de la création, bon, c'est exactement ce que Dieu nous demande. Alors, ce Dieu, donc, ne pense que à la relation, la qualité de la relation entre lui et les siens, il ne pense que à ce qu'il peut donner et non pas à ce qu'il peut jalousement garder ou conserver pour lui. Il nous a fait à son image, donc on peut être en relation avec lui et il nous demande de l'aimer avec notre cœur, notre sensibilité, mais aussi notre pensée. C'est important d'aimer Dieu aussi avec sa réflexion et sa pensée. Ce n'est pas le plus important, et de loin pas, mais quand même, ça a sa place aussi. Et peut-être qu'aujourd'hui, on néglige trop, où on se débarrasse trop facilement dans les églises, mais pas que dans les églises, du facteur réflexif. Dieu donc veut éclairer cette relation où tout se base sur la totalité de ce que nous sommes, même si bien sûr le cœur est prioritaire. Qui dois-je aimer? C'est la question du pharisien à Jésus. Autrement dit, je sais que je dois aimer mon prochain, sous-entendu, qui est mon prochain et qui ne l'est pas? Qui dois-je vraiment aimer? Qui puis-je me dispenser d'aimer? C'est la question un peu tendancieuse posée à Jésus. Et à cette question qui n'est pas bonne, Jésus botte en touche, il ne répond pas directement. Il reprend la question, il la retourne et il va dire aux pharisiens, tu ne dois pas te demander qui tu dois aimer, tu dois te demander qui toi, enfin, qui, tu ne dois pas te demander qui est aimable, tu dois te demander qui toi tu dois aimer. Et à ce moment-là, c'est clair qu'il n'y a pas de frontière, il n'y a pas d'exclusion. Tu dois aimer tous les hommes sans distinction. Alors beaucoup ont posé la question, la foi et la raison. Est-ce que l'intelligence doit être très importante dans notre réflexion spirituelle ou pas? C'est important, certes. Mais le cœur a sa place, prioritaire, mais qui n'est jamais exclusive. Question encore dans cet inventaire de ce que le sommaire de la loi nous suggère. Question annexe, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Bon, d'abord, premièrement, nous savons très bien que nous sommes tous assez loin du compte en la matière. Je pense qu'il n'y a pas d'équivoque à son sujet. C'est facile de s'aimer soi-même s'il s'agit de s'aimer mal. Par contre, s'il s'agit de s'aimer bien, ben, ce n'est pas si facile que ça. S'il s'agit de se dépouiller de tout ce qui, chez nous ou en nous, n'est pas bon, eh bien, ce n'est pas si facile que cela. Et ce n'est que si nous nous aimons bien, autrement dit, en abandonnant de plus en plus notre identité personnelle ou autre, ce n'est que à cette condition-là que nous pourrons vraiment aimer les autres. Alors maintenant, quelques réflexions en vrac pour confirmer un peu tout ce que je viens de dire. Il m'arrive souvent de dire que moi, en tant que pasteur, j'ai une seule chose à dire, c'est que Dieu est amour. Mais j'ajoute, de la même façon que dans une déclaration d'amour à quelqu'un, il y a mille et une façons de dire à quelqu'un qu'on l'aime. Et parfois même sans le dire, je veux dire sans le verbaliser. Vous avez pu voir comme moi, par exemple, certains films de Charlie Chaplin où il y a de magnifiques déclarations d'amour sans un seul mot. Bien. Eh bien, il y a mille et une façons de dire à quelqu'un qu'on l'aime, et donc il y a aussi mille et une façons de dire que Dieu est amour et que c'est important pour nous, aujourd'hui, dans notre vie, comme demain, pour plus tard. Alors maintenant, quelques adaptations de ce principe du sommaire de la loi au monde d'aujourd'hui, tel qu'il nous est proposé. Je pense qu'aujourd'hui, il y a deux choses qui devraient nous interpeller. Premièrement, beaucoup de ceux qui nous entourent, à commencer par un certain nombre de nos enfants, pour ceux qui ne sont pas tout jeunes, bien sûr, beaucoup de ceux à qui nous entourent sont des personnes qui ne sont pas hostiles au monde religieux, mais par contre, pour qui ce monde religieux n'est pas très parlant. C'est, autrement dit, notre vocabulaire religieux ne leur parle pas beaucoup. Alors, lorsqu'on est ici entre nous, entre croyants, c'est très bien. On a un vocabulaire, on le garde, c'est très bien. Mais je pense que si nous voulons vraiment interpeller nos enfants et d'autres, il faut trouver d'autres perspectives et un autre vocabulaire. Premièrement, d'autres perspectives, je pense que ce dont ce monde souffre le plus aujourd'hui, c'est du manque de sens. Que ce soit en politique, je pourrais faire des allusions à des événements très très récents et qui nous préoccupent aujourd'hui en France ou dans d'autres pays, mais c'est vrai qu'on voit bien que aujourd'hui, la plupart des hommes politiques, quels qu'ils soient, ont beaucoup de peine à répondre à cette question de base, quel est le sens de la vie ? Question qui sans doute préoccupait nos devanciers, mais peut-être pas de façon aussi aiguë qu'aujourd'hui, en ce moment. Bon, c'est provisoire, mais en tout cas, en attendant, nous sommes dedans. Et donc, notre devoir, c'est de répondre à ce besoin, à cette demande pour aujourd'hui. Quel est le sens de la vie ? Alors, au niveau du vocabulaire, c'est pareil. Je disais, notre vocabulaire glisse sur beaucoup de gens. Je crois que pour beaucoup de nos contemporains, les termes « Dieu », la grâce, le salut sont des trucs qui glissent, qui ne les interpellent pas vraiment, qui leur a tort ou a raison, mais qui sont étrangers au monde sensible ou conceptuel dans lequel ils sont. Et il me semble que nous devrions arriver, sans trop de peine, à trouver un vocabulaire correspondant. Je suis frappé, chaque fois qu'on parle du sens de la vie, on est écouté. Pour moi, le sens de la vie ou Dieu sont des équivalences. Il me semble que dans les deux cas, il s'agit de ce que Dieu veut pour nous et de ce que nous devons essayer d'être ou de faire. Alors, le sens de la vie, aimer la vie, cette vie que nous avons, et c'est important de l'aimer tant que notre amour n'est pas égoïste, tant qu'il ne fait pas du mal aux autres ou à nous-mêmes, tant qu'il ne conduit pas à une forme d'esclavage. C'est bien d'aimer les bonnes choses. Pourquoi pas d'aimer les bons repas à condition que ce soit de temps en temps et partagé avec d'autres. Mais aussi, savoir aimer les belles balades, aimer les cimes neigeuses, l'eau qui court dans les prés, le mouvement des vagues, un visage d'enfant ou de vieillard avec un sourire. Il y a tellement de choses qui sont belles et qui nous interpellent. Et puis savoir que les petites choses, les petits bonheurs, parlent de ceux qui sont beaucoup plus grands qu'eux et renvoient à ce qui est grand et éternel. C'est pourquoi la vie est un tout. Où il ne faut pas séparer le religieux et le profane. Jésus, aux noces de Cana, n'était pas lors des cérémonies religieuses, il était à table avec ceux qui faisaient la fête. Cela veut dire qu'aux yeux de Dieu, tout est sacré. Il n'y a pas de partage entre le sacré et le profane, mais pour Dieu, tout est saint, lorsque tout est vrai et vécu avec sincérité. Alors maintenant, ma troisième partie, le message théologique que nous pouvons en tirer. Dans la deuxième lecture que je vous ai proposée dans l'évangile de Matthieu, il est dit, Jésus commença à dire aux disciples qu'il fallait qu'il souffrît, qu'il soit persécuté, etc. Jésus commença à dire, c'est normal que Jésus, c'est normal que Jésus ait besoin de préparer ses disciples à un événement aussi important, mais aussi imprévu pour eux. Donc Jésus a bien préparé ses disciples à la fin. Mais, chose surprenante, lorsque quelqu'un va quitter ce monde, et surtout s'il est jeune, Bon, il est normal qu'il essaye un peu de laisser quand même un héritage, quelque chose aux siens. Jésus n'a pratiquement rien laissé. Dans l'évangile de Luc, par exemple, ou Matthieu et Marc, c'est pareil, la seule chose que Jésus laisse comme directive à ses disciples, il leur dit, tu aimeras ton Dieu, tu aimeras ton prochain. Point final. Alors Jean est un peu différent, le quatrième évangile, mais finalement, on retrouve à peu près la même chose dans l'évangile de Jean. C'est quand même très particulier de réaliser que, premièrement, Jésus ne laisse aucune indication sur les croyances qu'il importe de donner aux disciples. Bon, ailleurs, on trouve beaucoup d'indications de croyances. Bon, qu'est-ce qu'il faut croire sur la vie éternelle? Qu'est-ce qu'il faut croire sur la Vierge Marie? C'est gentil, merci. Qu'est-ce qu'il faut croire sur la Vierge Marie? Qu'est-ce qu'il faut croire à propos des sacrements et de 46 autres choses? Bon, dans la bouche de Jésus, il n'y a rien là-dessus. Il n'en a pas parlé. Au niveau moral, ailleurs, je dirais notamment chez Paul, mais enfin là, je ne m'étendrai pas, ailleurs, c'est vrai que sur la morale aussi, on trouve des directives. Telle chose est permise, telle chose est défendue, telle chose est interdite. Bon. Vous pouvez lire les évangiles dans n'importe quel sens, vous ne trouvez rien de moral dans la bouche de Jésus. Et encore plus, concernant l'organisation de la vie de l'Église, concernant comment faire les cultes, les liturgies, les sacrements, tout ce qu'on veut, il n'y a rien chez Jésus. C'est quand même très surprenant qu'il ait eu le souci de préparer ses disciples à son départ et qu'il leur laisse rien sur tout ça. Alors, on peut se dire, ou bien Jésus a été négligent, il a oublié de laisser quelques directives, ou bien, ce qui me paraît quand même plus acceptable, volontairement, contrairement à d'autres, Jésus n'a pas voulu laisser de directives à ses disciples, considérant qu'il fallait que les disciples s'organisent librement en fonction des conditions où ils sont placés. Autrement dit, dans des cultures différentes, on comprend très bien que peut-être, moi je ne sais pas, que dans certains pays d'Afrique ou d'Asie, on puisse célébrer un culte un peu autrement qu'au foyer de l'âme, par exemple. C'est normal. Et d'autre part, qu'on n'ait pas exactement les mêmes perspectives culturelles ou éthiques aujourd'hui qu'on pouvait avoir il y a un siècle ou plusieurs siècles. Ça me paraît d'une très grande lucidité et sagesse, justement, que Jésus ait donné ces deux directives, aimer Dieu, aimer son prochain, ensuite, ne pas faire n'importe quoi, n'importe comment, bien sûr pas, mais quand même que tout ce que nous fassions soit en fonction de nos époques, de nos cultures, de ce que nos contemporains peuvent comprendre, accepter, etc. Voilà donc, me semble-t-il, libre à vous d'être d'accord ou pas, voilà donc un petit peu la perspective décisive et pourtant accessoire où Jésus nous place. Pas de dogme obligatoire, des croyances, bien sûr, chacun est libre d'avoir des croyances, et puis même en communauté aussi, mais que ce ne soit pas des diktats, des choses considérées comme infaillibles ou obligées, qui est une grande liberté en fonction des situations, des cultures, de tout ce qu'on voudra, qu'on adapte un peu le message, à condition qu'on reste toujours sur ces deux rails, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Voilà, il me semble fondamental à la fois d'avoir cette très grande liberté et en même temps cette grande bienveillance déterminée par l'amour. Autrement dit, que nous ne soyons pas naïfs dans ce que nous faisons, mais que volontairement nous établissons un monde dans lequel les choses soient inspirées par Dieu et ensuite adapté aux circonstances, au monde dans lequel on vit, etc. Je terminerai en disant simplement ceci. Probablement que l'essentiel de ce qu'on peut dire n'est pas très, très au-delà de ce que j'ai évoqué. Parce que, il est important de bien penser les choses. J'allais dire que notre vocation de chrétiens libéraux va totalement dans ce sens-là. Mais ensuite, de savoir très clairement où se situe la limite de partage entre notre amour de Dieu et puis ensuite les choses qui doivent s'adapter. L'essentiel peut-être a été dit dans ce que j'ai évoqué, mais l'essentiel uniquement de ce qui se dit, de ce qui se formule. Parce que tout cela est bien, mais une fois qu'on a évoqué tout cela, eh bien, à partir de là, la vie commence. À partir de là, réellement, tout doit commencer, tout doit s'inventer et tout doit se vivre. Voilà. Amen.
Pierre-Jean Ruff a été pasteur au foyer de l'âme pendant quelques années et il a quitté notre paroisse il y a à peu près 20 ans. Donc nous le remercions beaucoup d'être venu aujourd'hui nous porter ce message tout à fait intéressant. Alors au rayon des annonces, la première annonce extrêmement importante, c'est que dimanche prochain, le 24 mars, ce sera l'Assemblée Générale de notre association cultuelle et nous vous attendons nombreux pour faire le point sur le début de cette année de vacances 2018. Vous savez qu'il s'agira donc de faire le bilan de l'année 2018 et puis de lancer bien sûr l'année 2019, que ce soit sur les activités, la vie de notre paroisse et bien entendu l'aspect financier qui est également extrêmement important pour nous. Donc ce sera dimanche 24. Au terme d'un culte un petit peu raccourci qui sera fait par Catherine Axelrad, nous démarrerons donc, je l'espère, l'Assemblée Générale entre 11h et 11h30. Autre chose, donc lundi 18, comme d'habitude, ouverture du temple avec accueil musical de 12h30 à 14h. Mardi 19, de 19h30 à 21h, réunion au foyer de l'âme au deuxième étage des groupes œcuméniques, chrétiens du Faubourg et interreligieux, ce groupe Cieux dont nous vous avons déjà parlé, pour préparer une célébration interreligieuse commune qui aura lieu à l'église protestante unie de Bon Secours, probablement le jeudi de l'Ascension, après-midi. Mercredi 20 mars, étude biblique à 19h30, conclusion de l'étude du livre de Ruth avec projection d'un film. Vendredi 22, le groupe Théopsycho à 19h30, reprise des questions soulevées par la question de la transmission à partir du deuxième livre des Rois. Élargissement à la question de la transmission dans l'Évangile et ce qu'elle peut signifier pour nous aujourd'hui. Samedi 23, le groupe Évangile et Liberté se réunira de 10h30 à 12h30 au Temple, piloté et animé par Laurent Gagnebin ici présent. Je crois que j'en ai fini pour cette semaine. Et maintenant, je voudrais donner la parole à Raphaël de Coster et à la petite troupe d'éclaireurs qui a une petite annonce à faire.
Bonjour. Nous allons faire une vente de gâteaux à la fin du culte pour financer le matériel dont on aura besoin pour notre camp. Donc ça nous ferait plaisir si vous pouviez acheter des gâteaux. Bonne journée.
Merci Raphaël et merci pour eux donc pour leur vente de gâteaux. On passe à l'offrande.
Attends, ici ça se fait en même temps que le chant du cantique, non?
Oui, absolument.
Tu l'annonces ou comme tu veux?
Oui, si tu veux. Ouais. Donc c'est maintenant le moment de l'offrande, c'est très important. On va vous parler de finances la semaine prochaine. Et Michel Tally, ici présent, prépare ses crayons, ses tableaux Excel et ses conclusions que vous aurez plaisir à entendre la semaine prochaine. Donc, pour arranger nos comptes et nos affaires, bien sûr, nous vous attendons nombreux et enthousiastes à ce moment de l'offrande. Pendant l'offrande, nous chanterons le cantique 280, c'est ça ?
En entier.
En entier. Voilà, merci à tous.
Nous prions, ô notre Père, maintenant nos prières pour nous-mêmes, pour nous libérer de notre attache intrinsèque ou égoïste, nos prières pour les autres, nos prières pour tous ceux qui souffrent, pour tous ceux qui sont peut-être atteints par la maladie, peut-être pour ceux qui approchent de leur dernière heure, nos prières pour ceux qui sont les victimes de l'injustice ou de l'intolérance ou de la méchanceté des autres, et peut-être aussi, pourquoi pas, nos prières pour les bourreaux, nos prières pour notre monde qui se cherche tellement et dont nos différents gouvernements du monde aujourd'hui tâtonnent à la recherche d'un sens important et d'une plénitude pour chacun. Ces prières, nous les résumons dans la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous abandonne pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et nous recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que le Dieu lumière, esprit et vie nous accompagne chacun sur notre chemin et qu'il nous ouvre toujours davantage à l'essentiel, autrement dit à l'amour. Amen.